France Culture La Nuit, un patrimoine radiophonique. Sa voix, son accent, avant même son style. Ses yeux, son enfance et son adolescence, enfance et adolescence qui, curieusement, que l'on soit un homme ou une femme, et quelle que soit notre génération, sont un peu notre enfance, notre adolescence, Colette. Colette, notre Colette, celle également de Julia Kristeva, témoin ce cinquième et dernier épisode d'une série diffusée pour la première fois sur France Culture en août 2003.
De l'écriture au féminin. Notre Colette, par Julia Kristeva. Aujourd'hui, une inexpugnable innocence.
Qu'on juge Colette aveugle ou qu'elle se déclare réfractaire à la politique, cet ingénu a cependant abordé au moins trois domaines qui sont aujourd'hui au cœur des préoccupations politiques: les femmes, la guerre et les images. Je n'aurai peut-être pas le temps de vous parler aujourd'hui des images, mais nous sommes au cœur d'une société du spectacle et il faut bien se rappeler que Colette, non seulement on ne répugnait à se faire photographier, mais qu'elle a beaucoup insisté à ce que ses livres soient largement illustrés, comme si elle voulait les faire porter à l'écran, avant que l'écran existe, et qu'elle a beaucoup, beaucoup aimé aussi les films, notamment les documentaires, mais aussi tous les autres, et elle a travaillé aussi pour le cinéma. Mais surtout, les femmes, la guerre, et puis sa conception du couple qui me paraît être peut-être le fond des choses, et son message politique au sens où la politique a un rapport avec l'éthique. D'abord, les femmes. Une antiféministe, elle l'est, bien que les féministes se soient reconnues en elle, et notamment aux États-Unis, qu'elle est annexée, pas toujours avec méprise. Un exemple. Paris Théâtre lui demande le 22 janvier 1910, « Êtes-vous féministe ?»« Moi, féministe ?»« Oui, au point de vue social, naturellement. » répond le journaliste. « Oh non, les suffragettes me dégoûtent. Et si quelques femmes en France s'avisent de les imiter, j'espère qu'on leur fera comprendre que ces mœurs-là n'ont pas cours en France. Savez-vous ce qu'elles méritent, les suffragettes? Le fouet et le harem. » Fin de citation. On tolère mieux ces propos dégoûtés si l'on sait qu'ils sont équilibrés chez Colette par un rejet tout aussi violent de la femme conventionnelle, qui prévaut à l'époque, mais aussi de la femme surexploitée, ne serait-ce que dans le music-hall, mais aussi ailleurs. De ce rejet du féminisme, j'entends aussi moins un déni de l'émancipation que la conscience des frustrations et des blessures que les femmes de sa génération devaient subir pour faire leur chemin, notamment en politique. Colette ne refuse-t-elle pas surtout cette surcharge que s'inflige la femme émancipée, la femme politique aussi, en train de devenir un prolétaire surexploité, si ce n'est pas déjà cette superwoman exténuée et dépressive que nous connaissons. En effet, sous quelques accents traditionnalistes, c'est le charme que Colette tente de sauver contre la société de consommation et de surproduction. Je la cite par exemple dans un texte tardif de Ma Fenêtre. Le grand changement pour la femme, il y a un quart de siècle, fut d'adopter un genre d'existence où, pour commencer, tout la blessa. Elle veut libérer donc la femme de ce qui la blesse, c'est-à-dire la société de consommation et de surproduction, et lui restituer ce charme qui est pour elle la joie de vivre. Utopie, sans doute, mais aussi une sourde résistance à l'industrialisation, on va dire, jusqu'au boutiste. Et Dieu sait que nous en souffrons encore aujourd'hui. Mais peut-être le point le plus contestable et le plus contesté, et qui a nourri une grande partie des commentaires concernant Colette, se situe dans son attitude politique. Politique des événements du début du siècle, politique des événements pendant la Deuxième Guerre mondiale. Colette, avec sa sensualité telle que nous l'avons vue pendant notre parcours, n'est pas quelqu'un qui prend des positions. Elle n'est pas dans le temps qui coule, dans le temps de l'histoire. Elle est dans un espace qui est celui de son style, de sa jouissance autre, de son extase. Et dans cette économie, il n'y a pas de place pour prendre position, pour assumer quelque jugement politique que ce soit. On comprend mieux ainsi son écart vis-à-vis de la politique, qu'on attribue facilement à son être de paysanne, disent les critiques. Qu'est-ce que c'est cet être de paysanne? Je crois qu'il s'agit justement de ce décrochage de la ligne du désir, qui est un désir à mort et qui est celui de la politique, décrochage du désir politique pour s'installer dans le hors-temps de l'espace. À partir de là, les grands événements de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, que ce soit par exemple l'affaire Dreyfus ou l'exposition universelle, ne retiennent pas l'attention de la jeune femme. Durant la Première Guerre mondiale, elle se fait cependant journaliste, mais une journaliste qui est plus sensible aux drames humains qu'au rapport de force géopolitique. Alors qu'Henri de Jouvenel excelle en diplomatie, sa seconde épouse, la baronne Colette, s'ennuie, elle l'avoue, pendant les dîners réunissant des hommes politiques. Mais ses correspondances du front, qu'elle a toujours méprisées, de pauvres choses journalistiques, dit-elle, ses correspondances donc, qu'elle coupera très largement pour l'édition du Fleuron, ont été estimées à l'époque comme novatrices. Colette a inventé un nouveau genre d'article interview. C'est le journalisme lyrique. Lyrique n'est pas synonyme d'enthousiaste. Il s'agit d'être fondé sur des rencontres quotidiennes d'une vie de femme, de mère, de voyageuse, d'artiste, avec les événements de l'histoire, témoigne un journaliste, un critique contemporain. Colette invente un genre de journalisme qui nous permet d'inscrire la vie humaine dans les préoccupations politiques. Cependant, c'est son activité de journaliste, à la veille et pendant la Seconde Guerre mondiale, qui suscite le plus d'interrogations, le plus de réprobations. Sans conviction précise, Colette collabore à des hebdomadaires dont les options politiques s'opposent. Sa contribution principale est destinée aux petits parisiens, pétainistes et collaborationnistes. À l'extrême droite de l'échiquier politique se situe Gringoire, fondé en 1928, dirigé par Horace de Carbuccia, qui se compromettra avec les autorités allemandes pendant l'occupation. Eh bien, c'est ce journal-là qui publiera Julie de Carnélan en 1941. À droite, Candide, organe de la librairie Artem Fayard, et qui diffusait depuis sa fondation en 1924 les opinions d'Action française. C'est ce Fayard-là qui publiera Le Képi de Colette en 1943. On a cité aussi d'autres textes de Colette, dont une dictée dans laquelle elle décrit la France comme un champ de blé qui se couche et nous sommes en plein pétainisme. Pourtant, les textes de cette époque, recueillis dans le journal à rebours en 1941, De ma fenêtre 42 et un peu plus tard Belle saison en 45, dévoile aussi la face secrète de cette Colette qui ne veut pas prendre position ou qui apparaît mondaine. Il s'agit d'une femme soucieuse, blessée, qui se replie dans l'attente et dans le souvenir du passé. Elle souffre avec les affamés, les déportés, les persécutés. Elle exerce une sorte de charme jusqu'auprès des autorités allemandes, mais uniquement dans le but de sauver son troisième mari Goutke de la déportation. Et ses textes sont remplis aussi d'une simple compassion humaine, sans interprétation politique, sans résistance autre que de résister au mauvais goût des Allemands et d'apprendre aux femmes françaises comment faire de la flognarde, une pâtisserie qu'elle adore, quand il n'y a pas de farine. Évidemment, le lecteur moderne demeure surpris quand il n'est pas scandalisé devant cet éloge de la légèreté française face à l'horreur sanglante de l'occupation. Ce culte du bonheur ne fait pas que révéler une cécité coupable face aux enjeux historiques. Pour cet ingénu politique, il est une manière magique de conjurer le malheur, de consolider les forces de l'espoir. Pour le dire brutalement, c'est en autruche gourmande que Colette se comporte en politique, ne voulant pas savoir ou tout simplement incapable de prendre position pendant les périodes du Vichy. Comment pouvait-il y avoir des positions dans cet imaginaire sans limite, dans cet océan de jouissance? La démesure de cet amour et de son soi monstrueux est telle que l'écriture qui la constitue se place d'emblée et nécessairement hors temps. Freud disait que l'inconscient est hors temps, zeitlos. Colette est peut-être dans ce hors temps, en tout cas elle est dans le pur espace incorporé. Évidemment, la politique a prétendu la juger. On l'a dit, après la guerre, les lettres françaises ont été les premières à s'insurger. D'autres l'ont critiqué aussi pour son manque de courage, notamment pour défendre un certain nombre de ses amis qui étaient accusés de collaboration et avec lesquels elle était très liée pendant la période de l'occupation. Tout ça reste très trouble et cependant, j'aimerais, sans conclure, donner pour cette période politique ou pour cette non-période politique de Colette la parole à Aragon. Aragon a rectifié le tir des résistants en faisant accompagner les bonnes feuilles du fanal bleu dans les lettres françaises du 5 mai 1949 du titre « Les souvenirs du plus grand écrivain français, Colette ». Et après la mort de Colette, il écrit un long poème laudateur qui s'appelle « Madame Colette » et qui est publié dans les lettres françaises datées du 12-19 août 1954. De ce poème, je retiens quelques mots que je trouve d'une grande justesse par rapport à l'ensemble de l'œuvre de Colette et aussi qui tient compte de cette autruche gourmande, de cet ingénu politique. Voici ces lignes. Une odeur d'innocence envahit les chemins, mélange singulier de mémoire et d'oubli, étrangère à l'histoire, et partout asservie, une aile va manquer au murmure français. Je pense quant à moi que je m'en tiendrai à ces mots plus qu'à ceux de Anna de Noailles qui, elle aussi, adorait Colette et qui, avec la complicité des femmes rivales, lui discerna cette appellation inexpugnable innocence. Mais pour finir, il me semble que c'est sa conception de l'amour qui peut-être être son message non politique mais éthique, par-delà et avec sa maestria dans l'art du texte. Son message sur le couple, je le résumerai après vous avoir dit quelques mots sur la façon qui est la mienne de voir la place du couple dans le monde moderne. Je dirais, pour synthétiser, que par-delà ces antécédents grecs, juifs et chrétiens, on pourrait soutenir que le couple moderne est fondé par ce qu'on a appelé, qu'on appellera encore aujourd'hui, l'idéologie bourgeoise, dite éclairée, telle qu'elle s'est constituée essentiellement grâce aux efforts des philosophes des Lumières. C'est à Rousseau que nous en devons les contours et les valeurs. La nouvelle Héloïse de 1761 décrit une société et des mœurs en décomposition. Émile, l'année suivante, 1762, en réponse à cette débâcle, invente une nouvelle réalité, un couple dans lequel le rapport sexuel, parce que fondé sur la nature, est déclaré possible. Il faut mettre cette invention du couple en perspective avec la réflexion qui était menée par les siècles précédents, La Boétie, Montesquieu, sur la dégradation des mœurs d'une part et sur la dégradation du pouvoir despotique de l'autre. Ainsi compris, le couple, qu'on dira désormais bourgeois, va être proposé comme une alternative à la fois à la déchéance des mœurs et aussi à la débâcle du pouvoir, pouvoir du souverain oriental polygame, mais tout le monde comprend qu'il s'agit des mœurs à Versailles, et donc il s'agit de combattre le pouvoir monarchique en mettant en place le remède du couple. Les rapports sexuels sont impossibles, le pouvoir despotique est en crise, qu'à cela ne tienne, dit en substance Rousseau, le nouveau couple sera la formule miracle destinée à fonder l'homme nouveau, l'homme bourgeois, qui est biface, à la fois parent et enfant dans un couple solide et en face citoyen dans un État démocratique. On le sait, les textes de Rousseau déjà montrent que cette formule est intenable, mais elle ne peut être contestée que sur le mode de la débauche, de la perversion et du crime, et ce sont les textes de Diderot et de Sade qui ont montré l'envers de cette normalité, de cette naturalité du couple bourgeois. Eh bien, si j'ai fait cette écartade, c'est pour mieux revenir à l'univers amoureux de Colette que nous avons traversé cette semaine. L'univers amoureux de Colette, bâti sur l'inimitié entre les sexes, je n'ai pas pu vous parler de sa férocité envers ses deux maris, en particulier envers Willy, je l'ai simplement mentionné très brièvement, l'inimitié entre les sexes, la mise en scène de personnages d'hommes-objets, des efféminés, parfois dominés par des femmes, hermaphrodites mentaux, l'expérience de la transgression en tous ordres, tout ceci semble tout droit issu de la débâcle de ce couple bourgeois, de son impossibilité et de la recherche de nouveaux liens. Pourtant, la version du lien amoureux que propose notre Colette, sans être philosophique ni politique, atteste d'un changement radical de l'angle d'approche. Non seulement parce que c'est une femme qui écrit, mais parce que son projet existentiel n'est pas de proposer un modèle du couple, mais de montrer une traversée du couple, sans pour autant s'exalter dans le régime de la transgression criminelle, comme le font Diderot ou Sade, ni se replier dans un modèle plus archaïque, tel par exemple le pari sur la transcendance, le retour à la religion et un certain conservatisme. Ni métaphysique, ni sociopolitique, la manière d'être au monde spécifique à Colette, qui culmine, je l'ai assez dit, dans son écriture, qui est à la fois un style et un alphabet dans la chair du monde, eh bien, cette sublimation, cet art, implique un constat des impasses autant que de la fécondité du lien amoureux, avec ses valences homo et hétérosexuelles. Elle atteste d'une profonde modification de la conception du couple et les féministes, tout compte fait, n'ont pas eu tort de voir dans ce bouleversement une courageuse amorce de la liberté féminine. Mais le message essentiel de Colette, rétive à toute sociologie, n'en reste pas moins d'insuffler une transformation de la subjectivité d'abord, de la subjectivité avant le couple, et à partir de là seulement de l'équilibre risqué qui constitue les êtres entre sens et sensation, loi et passion, pureté et impureté. Ni l'impératif de la reproduction de l'espèce, ni l'impératif de la stabilité sociale, qui sont les deux garanties du couple et qui sont tous les deux garantis par le couple, ne guident la pensée de Colette. Rien qu'un constant souci d'affranchissement du sujet et en priorité de libération du sujet femme, désireux d'atteindre la liberté sensuelle afin de maintenir sa curiosité et sa créativité, non pas dans un couple, mais dans une pluralité de liens. La traversée de l'amour par Colette n'est-elle pas aussi et surtout une traversée de la religion? Et c'est le dernier point auquel je voudrais arriver. Colette se disait la fille d'une femme athée. Et Sido est présentée comme une ironiste au moment de la messe, qu'elle fréquentait néanmoins. La fureur de Colette elle-même contre la religion se manifeste dans beaucoup de textes de sa jeunesse. Cette révolte va s'apaiser avec le temps. Et c'est en suivant le détachement infini, mais toujours passionnel, qu'elle propose du lien amoureux, afin de lui substituer une passion amicale, florale, animale, pour l'être dans la langue. C'est dans cette expérience-là que nous suivons le sens profond de sa conviction d'athéiste. Ni les illusions, ni les fantasmes ne sont abolis dans cette proximité, jamais atteinte, je crois, dans la langue française, entre l'effervescence imaginaire et le travail stylistique. Mais dans l'écriture ainsi vécue, il ne subsiste aucun objet absolu, aucun homme, aucune femme, aucun pôle salvateur, aucun absolu donc, aucun repère étranger à la passion de la langue. C'est celle-ci qui demeure, mais elle n'adhère qu'au seul ajustement entre le senti et le dit. C'est là que se situe Colette. Ni dans l'amour, ni dans l'absolu, dans le travail qui met côte à côte, vis-à-vis, le senti et le dit, l'aimer et le dit, le vécu et le représenté. La sublimité et la monstruosité de Colette résident dans cette résorption totale de toute transcendance, mais aussi de tout objet d'amour, homme, femme, enfant. Et vous mesurez la cruauté de cette démarche, résorption, dis-je, de toute transcendance et de tout objet d'amour par l'arabesque, l'alphabet, la broderie, le monogramme, c'est-à-dire le style. Évidemment, ce parcours, cette transformation du lien amoureux est lourd de vertiges anarchistes, de beaucoup de cruauté. Mais je préfère qu'on y lise surtout une promesse libératrice. Notre intimité secrète la partage lorsque nous suivons Colette dans la solitude de notre lecture. Et nos actes amoureux aussi se sentent proches, en complicité, avec ses comportements fussent-ils cruels. Nous la rejoignons de plus en plus ouvertement, je pense, en ce début du troisième millénaire. Car nous savons désormais que la voix solitaire de Colette, lorsqu'elle dit « l'expérience la plus banale de la vie, l'amour, s'éloigne de moi, tout le reste est gai, varié, nombreux », Nous savons que dans cette voie solitaire qui est gaie, variée et nombreuse, sa solution imaginaire, sa solution d'écrivain solitaire est peut-être des plus radicales, et pour cela même, peut-être parmi les seules possibles. Car avant de bâtir de nouveaux modèles et des structures existentielles pour l'entente entre les sexes, pour la famille composée ou pas composée ou recomposée en vue d'un nouveau type de nation ou de fédération, eh bien, c'est de la capacité imaginaire, de son éclosion possible, ou au contraire de son étouffement dans les techniques, dans le spectacle, et la résurgence du sacré intégriste, pourquoi pas, qui nous assaille de partout, c'est donc de notre capacité imaginaire que dépend notre aptitude à la jouissance sexuelle et à partir de là, notre aptitude à la vie elle-même. Colette nous apparaît dans une politique, entre guillemets, parce qu'elle n'en voulait pas, mais c'est en définitive d'une politique implicite qu'il s'agit. Elle nous paraît dans cette politique d'ingénu comme proposant une défense et illustration de l'expérience imaginaire. En ce que l'expérience imaginaire est constitutive et libératrice de tout lien à l'autre, couple ou groupe. Cette expérience imaginaire, elle l'a menée avec le maximum d'audace, elle l'a enracinée dans l'indice même de la nation, la langue. C'est pourquoi, en la construisant et en la musiquant, pour employer ce mot barbare mais il est de Diderot, en musiquant la langue, en l'écrivant avec saveur, l'écriture de Colette témoigne, avec une force inattendue en son temps et contagieuse aujourd'hui encore, de la liberté d'une femme, d'un couple, d'une époque. Alors, pour résumer, je dirais en deux phrases le message qu'elle nous livre, si message il y a, et toute sublimation, malgré tout, nous permet de vivre, et en ce sens, elle est un message. Je le résumerai ainsi. Pour vivre en couple et en groupe, il faut non seulement oser avec imagination, mais savoir l'écrire et transmettre cette imagination avec toutes les saveurs de la langue. Dans ce long chemin, Colette ne cesse de nous accompagner. Et si c'était ça, le génie français ?
C'était De l'écriture au féminin par Julia Kristeva. Prise de son, Jean-Michel Coqui. Mixage, Cécile Dume, Olivier Dupré. Réalisation, Marie-Ange Garandeau.
Cette série d'émissions a été diffusée pour la première fois sur France Culture en août 2003.